Sylvain Boulouk, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste des mouvements sociaux. Merci d'être en ligne avec nous. Peut-on dégager un profil de ceux qui sont à l'origine de ces violences de samedi ?
Alors, pour samedi, c'était principalement ce que l'on appelle des black blocs, c'est-à-dire des militants de la gauche radicale anticapitaliste. Qui ont voulu, par une action symbolique, s'en prendre un certain nombre de symboles du système capitaliste, donc toutes les boutiques de luxe, les restaurants qui symbolisent également ce luxe, et par ailleurs, comme c'est fréquent, s'affronter avec le tout dans un ensemble relativement symbolique d'affrontements, on va dire, de type plus ou moins carnavalesque, sauf que ça a pris des proportions beaucoup plus importantes que d'habitude. Alors, les black blockers qui vont former le black bloc sont environ, il est difficile de dire exactement combien, mais on va dire plusieurs milliers. Et là, il y a eu un phénomène très intéressant au point de vue sociologique, c'est qu'on a vu une sympathie affichée des gilets jaunes en faveur de ces black blockers, c'est-à-dire que tout au moment de la formation de ce bloc, ils ont été appuyés par une grande partie des gilets jaunes qui marquaient leur empathie pour ce mouvement.
Alors, ce sont donc bien, si je vous suis, des militants de l'extrême gauche, pas, comme on a pu l'entendre, d'après vous, éventuellement, simplement de gilets jaunes radicalisés.
Alors, il peut y avoir des gilets jaunes radicalisés qui ont rejoint le Black Bloc, puisque le principe du Black Bloc est le fait que ces militants ne vont jamais réclamer ouvertement de se frotter avec les forces de l'ordre, puisqu'on est aux marges de la légalité. Vous pouvez avoir un certain nombre de gilets jaunes qui se fondent et qui participent à ce mouvement. Par contre, ce qu'on a vu à côté, c'est un certain nombre d'autres gilets jaunes qui ont agi de la même manière, mais en n'ayant pas cette pratique du Black Bloc et qui étaient souvent à visage découvert, mais tout à fait prêt à s'affronter avec les forces de l'ordre d'une manière similaire. C'est-à-dire qu'on avait deux types de populations qui étaient prêtes à l'affrontement avec la police et qui pour d'autres étaient prêtes à s'en prendre au symbole de la richesse de cette avenue parisienne.
Avant de revenir sur le mode opératoire, j'ai envie de dire un mot quand même, encore une fois, du profil. On parle là aujourd'hui de l'extrême gauche. Il n'y a plus de militants d'extrême droite, comme on avait pu le dire, on avait pu le voir au début du mouvement.
Les militants d'extrême droite, ils ont été, alors ils n'étaient pas présents ou marginalement présents samedi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne reviennent pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas ailleurs. Mais là, en tous les cas, samedi dernier, c'était tout à fait, la présence de l'extrême droite était marginale, voire insignifiante. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois sur l'autre, la nature du mouvement ne puisse pas changer, parce que c'est un mouvement qui, pour le coup, est extrêmement versatile et dont les composantes sont changeantes d'une semaine à l'autre, voire même d'un début de manifestation à une fin de manifestation. C'est pas toujours forcément les mêmes personnes qui manifestent, voire même qui s'affrontent avec la police au début et à la fin.
Alors justement, ces personnes différentes, est-ce que ça a une incidence sur le fonctionnement de ce mouvement des Black Blocs ? Est-ce que vous avez le sentiment que la méthode, les méthodes, les modes d'action ont changé depuis le mois de novembre?
Alors, pour le Black Bloc, la méthode d'action est toujours la même, hein, puisque c'est participer à une manifestation et à un moment se vêtir de noir pour aller s'affronter avec les forces de l'ordre. Donc ça, cette méthode d'action est la même, quel que soit le pays européen et quelle que soit la manifestation. Après, ce qui change, c'est la structure des gens qui peuvent rejoindre ce Black Bloc. Grosso modo, on a quand même des jeunes, plutôt des jeunes gens de 20 à 30 ans, voire 40 ans, qui participent à ce type d'affrontement. Alors après, ce qui change un peu, c'est que parfois, c'est le degré de diplôme qui peut être un peu variable. Là, avec les gilets jaunes, on a tendance à avoir une population qui est un peu moins diplômée que dans d'autres types de manifestations. Mais c'est un peu la seule nuance qui peut y avoir.
Je vous pose la question, Sylvain Boulouk, car on se souvient, par exemple, le 1er mai dernier, il y avait eu une volonté d'incendier un McDonald's. Certains avaient dit non parce qu'il y a des habitants au-dessus dans l'immeuble.
Oui.
Là, cette fois-ci, ils n'ont pas hésité à mettre le feu à une banque avec une mère et son bébé qui ont failli passer.
Oui, alors on n'est pas sûr. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui exactement a mis l'incendie, a mis le feu dans la banque. Toujours est-il que dans la pratique du Black Bloc, effectivement, au mois de mai dernier, il y a eu ce, entre guillemets, ce rappel en disant attention, il y a des gens qui habitent au-dessus du McDonald's. Là, il se peut que ce soit d'autres personnes qui n'ont pas du tout, qui sont plus jeunes dans, alors pas forcément par âge, hein, mais dans la pratique manifestante, qui se soient dit, bon, c'est une banque, on va y mettre le feu, sans penser à l'environnement extérieur de cette banque. Qu'il puisse y avoir des habitants à l'intérieur de l'immeuble. Donc ça, c'est effectivement une nouveauté. Autre nouveauté qu'on n'avait jamais vue dans le cadre des manifestations Black Bloc et des actions des Black Blocs, c'était le fait que les kiosques à journaux prennent feu. Ça faisait partie des éléments qui n'étaient pas trop, qui ne relevaient pas de cette pratique.
Une nouveauté, donc on l'a bien compris. Une autre question, s'il vous plaît, est-ce qu'il est possible pour l'État, est-ce qu'il a les moyens d'identifier individuellement ses membres, ses Black Blockers?
Alors pour le coup, je ne suis pas du tout spécialiste des services de police et de justice, mais le principe des Black Blockers, c'est d'essayer de pas se faire arrêter. Donc les identifier va être relativement difficile, d'autant que ce ne sont pas des militants qui s'affichent publiquement, c'est une mouvance et des groupes affinitaires. Donc ils vont pas chercher à certains. Et personne ne déclarera jamais j'ai participé à telle ou telle action ouvertement.
Je vous pose la question car il s'agit d'avancer. Le gouvernement est à la recherche de pistes. Éventuellement, peut-être, on entendait tout à l'heure, la possibilité d'interdire les manifestations sur les Champs-Élysées. Est-ce que ça vous semble une première réponse?
L'interdiction sur les Champs-Élysées, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des manifestations ailleurs et ça ne veut pas dire que les Black Blocs n'agiront pas ailleurs dans d'autres lieux de Paris, puisque une des formes d'action des Black Blocs, c'est justement d'agir plus ou moins par surprise et là où on ne l'attend pas.
Sylvain Boulouk, est-ce que la loi anticasseur qui est bloquée aujourd'hui au Conseil constitutionnel, si elle avait été applicable à vos yeux, est-ce qu'elle aurait pu faire la différence?
Je vais prendre un parallèle historique. En 1970, il y avait déjà eu une première loi anticasseur. Cette première loi anticasseur n'avait jamais empêché les violences manifestantes et les manifestations violentes. Donc, je ne suis pas sûr que ça change quoi que ce soit dans les manifestations de rue. Je rappelle que la loi anticasseur de 70 avait été abolie par le gouvernement de François Mitterrand en 1981. Mais bon, je ne suis pas sûr que les manifestations violentes, loi anticasseur ou pas loi anticasseur, changent quoi que ce soit. Que la loi change quoi que ce
change
soit.
Change quelque chose.
Les manifestants vont être violents, voilà.
Sylvain Boulouk, chargé de cours à l'université de Cergy-Pontoise, spécialiste des mouvements sociaux, merci d'avoir été en ligne avec nous.